bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce débat politique de Radio Ndeke Luka, le premier média centrafricain. Nous parlons aujourd'hui de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. En effet, l'intersyndicale des travailleurs de Centrafrique alerte sur le calvaire que traversent en ce moment les travailleurs du secteur public. Presque tous les prix ont augmenté sur les marchés, conséquence directe de la pénurie de carburant que vit le pays depuis février-mars dernier. Selon les observateurs sociaux, cette situation s'est accentuée par une sorte d'un laisser-aller qui s'installe dans le pays. Le coût de vie est élevé, martèle les travailleurs, nos salaires sont restés identiques, regrette-t-il. Face à cette plainte sociale, le gouvernement se défend, se référant à la guerre en Ukraine et à la crise d'hydrocarbures en cours dans le monde entier. Question patara du jour, cette situation interpelle-t-elle le gouvernement? Si oui, que fait-il concrètement pour soulager la souffrance de la population? Pourquoi tout a augmenté? Cependant, personne n'a informé la population du changement intervenu sur les prix des denrées alimentaires et les produits de première nécessité. Les travailleurs du public vont-ils tenir le coup face à cela? Voilà autant d'interrogations qui vont nous aider à mener à bon port le débat politique d'aujourd'hui. Et pour en discuter, le plateau Patara reçoit aujourd'hui Louis-Marie Kokrengbo, coordinateur de l'intersyndicale de Centrafrique. Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission politique.
Bonjour Armando, bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent.
Madame Rachel Ngakola, bonjour.
Bonjour Monsieur Armando et bonjour à tout le monde.
Député de Bambari 1 et membre de l'opposition démocratique, Eroque Baron Kunda Bungbi, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Oui, vous êtes coordinateur de la plateforme Mbingazo, organisation politique qui soutient les actions du gouvernement. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien Patara de Radio Ndeke Luka, le débat sur les actualités politiques de Centrafrique en cours.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Merci. L'intersyndicale des travailleurs de Centrafrique attire l'attention du gouvernement sur la hausse des prix de denrées alimentaires dans le pays, ce qui ne permet pas aux travailleurs de joindre les deux bouts. C'est l'objectif principal de notre débat politique d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur l'actualité. Le gouvernement a interdit le meeting du député Joseph Bindunga qui devait avoir lieu ce matin. L'opposant voulait informer l'opinion nationale sur les problèmes économiques, sociopolitiques et sécuritaires du pays. Le ministre de la Sécurité publique, Michel Nikez-Nassin, a justifié cette interdiction pour des raisons de sécurité qui prévaut dans le pays. Messieurs, autour de cette table, et madame, en commençant par vous, quel commentaire faites-vous de cette affaire, madame Rachel?
Merci, monsieur Armando. Moi aussi, c'est hier nuit que j'ai eu la dépêche concernant l'interdiction du ministre de la Sécurité, pour interdire la tenue du meeting aujourd'hui. Ce qu'il a évoqué comme raison, c'est question sécurité. Bon, ça m'a amusé. Je me suis dit, ben voilà, encore une autre dérive totalitaire. Encore une erreur, encore un dérapage de la part du régime. Il y a deux semaines, ils ont organisé un grand meeting au même endroit, même heure. Ça a été autorisé. Et aujourd'hui, voilà qu'un autre compatriote veut organiser un meeting. Bindunga se dit démocrate. Il a toujours signé le démocrate. Il veut organiser un meeting parce qu'il faut avoir tous les sons de cloche. Ils ont organisé leur meeting pour dire oui à la Constitution. Peut-être que lui veut organiser le meeting aussi pour dire qu'une frange de la population aussi dit non à la Constitution. Et là, ça lui a été interdit. Alors ça, j'interpelle directement le président de la République. Il laisse faire les choses, c'est pas bon. Et c'est ça qui crée les frustrations. C'est les frustrations qui créent des crises dans ce pays. Il va falloir que le président se reprenne en main, qu'il arrête d'écouter les différents chants de sirènes pour l'induire en erreur.
Mais oui, lorsqu'on parle de la situation sécuritaire, vous avez dit deux semaines, mais peut-être les choses ont évolué après deux semaines que vous l'avez dit.
Ok, d'accord, qu'on nous dise. Qu'est-ce qu'il y a à Bangui ici? Quel est le problème sécuritaire à Bangui? Tout le monde circule. Quel problème sécuritaire il y a à Bangui? Mais n'est-ce pas, ils ont dit qu'il y a maintenant la sécurité dans le pays, non? Au moins 80%, 90%. Quand il s'agit de l'autre camp, il y a des problèmes de sécurité. Mais quand il s'agit de, si demain, Donengo ou Kossimati veulent organiser un meeting, il n'y aura pas de problème de sécurité. C'est la politique de deux poids, deux mesures. Et il va falloir que ça s'arrête.
Nous allons écouter les autres autour de cette table parce que c'est l'actualité. Nous allons écouter d'abord M. Kunda Bumbi. Ici, vous soutenez les actions du gouvernement. Vous faites partie de cette plateforme qui est en train de soutenir l'action du gouvernement et surtout la question du référendum. La fois dernière, il y a cela deux semaines, votre organisation avec Fonds Républicain, que vous avez soutenu aussi, a manifesté, a fait des meetings du centre-ville ici à Bangui pour soutenir ce que le gouvernement est en train de faire. Aujourd'hui, le meeting de M. Joseph Bendunga a été interdit. Qu'en dites-vous?
Je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez pour participer, n'est-ce pas, dans ce débat. Je tiens à relever que, bon, en fait, tout le monde soutient le président de la République, mais chacun dans son rôle. Et le meeting de l'honorable Bendunga, qui a été interdit par le gouvernement, vu le contexte sécuritaire, vous êtes sans ignorer que depuis deux semaines, comme vous venez de le dire, la situation sécuritaire est un peu inquiétante. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations après la mise à la retraite de Mme Darlan. Il y a eu beaucoup de déclarations de l'opposition qui incitent à la haine. Et donc, il en va du devoir du gouvernement pour protéger la population, en fait, de calmer d'abord la situation et de prendre le contrôle de la situation afin d'autoriser des manifestations de grande envergure de cette manière. Et donc, moi, je pense que ça va dans l'intérêt de la population et c'est une décision qui est sagement prise et que nous saluons parce que le pays a trop souffert de multiples crises et nous ne pouvons pas toujours continuer à nous s'entretirer pour pouvoir mener encore le pays encore dans le chaos. Nous sommes sur la voie de développement. Je pense que nous devons regarder en avant afin d'avancer.
Lorsque vous parlez d'une décision, en écoutant Mme Ngakola tout à l'heure, ça fait deux poids, deux mesures. On interdit aux autres, c'est-à-dire à l'opposition comme M. Bendunga, de faire de meeting, mais on vous laisse manifester librement et on vous encadre. Est-ce que vous pensez que c'est exactement deux poids, deux mesures?
C'est deux contextes différents. Ce n'est pas les contextes ne sont pas similaires. C'est deux contextes différents. Le contexte dans lequel nous avions organisé notre manifestation était autre que le contexte actuel.
Lequel?
Et donc, notre contexte à nous, à l'époque,
le
22, le climat sécuritaire n'était pas aussi à ce niveau. Il n'y avait pas eu ces déclarations de haine de la part de l'opposition de BRDC, je vous l'ai dit, parce qu'ils ont fait des déclarations, ils ont dit des mots forts, ils ont appelé à la grande mobilisation, c'est des mots qui ont trait à une incitation à la haine, à des révoltes. Alors, par mesure de sécurité, il faut que les manifestations publiques soient suspendues momentanément, le temps de reprendre les choses en main. Et donc, je pense que l'opposition ne prenne pas ça sous l'autre angle, mais que cela soit dans l'intérêt, bien sûr, de la population. Parce que tout le monde défend l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, si gouverner, c'est prendre des décisions, Armando, tout en tenant compte des contextes.
Voilà, avant de donner la parole à Mme Rachel qui voulait rebondir, on écoute M. Kogrenbo, vous êtes coordinateur de l'intersyndicat de la représentation africaine des travailleurs d'abord. Sur cette actualité d'interdiction de manifestation ou de meeting de l'opposant Joseph Bendunga, qu'en dites-vous?
Merci beaucoup, M. Armando. Par rapport à l'actualité, je ne suis pas politique, mais j'ai lu sur les réseaux quand le compatriote Bendunga a appelé tout le monde au PK0 pour un meeting qui devait avoir lieu. Et c'est toujours sur les réseaux que hier nuit, j'ai lu également une décision prise par le ministre chargé de sécurité pour interdire donc ce meeting. Monsieur Armando, ce que j'ai à relever, cette démocratie que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé de leur sang pour qu'on arrive là. Et je crois que le temps de pensée unique, de parti unique, de jeunesse unique, de syndicat unique est dépassé. Je le dis aujourd'hui en tant que représentant des travailleurs, mais comme c'est un terrain trop politique, je n'ose pas m'hasarder, mais je dis que ce temps est révolu. Parce qu'il y a eu des gens qui ont payé de leur sang, ils ont fait des sacrifices pour que nous arrivions aujourd'hui à cette démocratie. Quand bien même encore balbutiante, nous devons tout faire pour préserver cette démocratie. Et la question que nous nous posons, il faudrait également que les hommes politiques, qu'ils nous disent là où ils veulent amener le pays. Si ce n'est que ça, un jour à l'autre, nous allons aviser.
Madame Rachel Gakola, vous voulez répondre tout à l'heure. Je vois que vous avez pris note sur les propos de M. Kounda Boumbi.
Oui, M. Kounda Boumbi, je ne sais pas, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie même de quitter la salle.
Je vous en prie, restez
avec
nous.
Mais je me retiens, je reste avec vous.
Merci,
je reste
c'est
avec
rassurant.
Vous parce que j'ai été attristée, je comprends, il est jeune. Il ne faut pas passer son temps à défendre l'indéfendable. Il ne faut pas qu'il amuse la galerie pour défendre l'existence de sa plateforme Mbingazo en disant ce qu'il vient de dire. Il dit la situation sécuritaire. Vous lui avez posé la question, mais où ? Qu'il nous dise l'insécurité qui prévaut en ce moment à Bangui. Il dit parce que le BRDC a fait des déclarations, a proféré des menaces. Mais attendez, M. Boumbi, les multiples communiqués de presse de la galaxie qui nous menace, est-ce que ça nous a fait reculer un jour? Même moi qui vous parle, il a même écrit pour dire que voilà où se trouve notre maison familiale. J'ai envoyé lui dire que moi aussi je connais son domicile. De toute façon, ils n'ont pas de domicile fixe. Ils ont tellement peur avec leurs déclarations haineuses qui profanent à notre encontre. Ils ne dorment même pas. Je veux bien défendre votre chapelle, mais défendez votre chapelle de manière digne. Parce que vous êtes encore très jeune. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour vous la jeunesse. Si demain, votre plateforme veut organiser un meeting, vous allez être autorisé. Là, vous n'allez plus voir le problème de sécurité. Le BRDC, c'est un bloc républicain responsable. On a dénoncé de manière juridique, sur papier, ce que les gens sont en train de faire à la Cour constitutionnelle. Mais on n'a jamais demandé à quelqu'un de venir saccager, de venir, comme dit Kossimati, nous avons les buzz balls pour nous casser les tibias, tout ça là. Ça ne nous a pas fait reculer. Donc, ne dites pas qu'on a menacé les gens parce qu'il y a eu le problème de la Cour constitutionnelle. Non, nous sommes des intellectuels. On était restés sur les bases juridiques. On a écrit pour dénoncer juridiquement et intellectuellement. On n'a jamais menacé qui que ce soit. Et même si on menaçait, ce n'est pas pour autant qu'on doit interdire le meeting d'un démocrate, d'un chef de parti, député de la nation. Non. Si vous, aujourd'hui, M. Boum, vous décidez d'organiser un meeting, demain, on va vous l'accorder. Et c'est cette politique de deux poids. C'est cette politique de deux poids, deux mesures. Je vous demande humblement de dire aux gens que vous défendez, que vous soutenez, d'arrêter ça. Parce que arrêtons avec les frustrations.
Nous ne sommes plus dans un état de droit parce qu'un état de droit, tous les citoyens sont égaux.
Nous ne sommes plus dans un état de droit. Vous êtes en train d'appliquer une dictature.
Oui, madame, on écoute. On l'écoute d'abord.
Ça, c'est pas bon. Non, mais il est en train de me couper parce que j'étais encore.
Oui, non, vous avez terminé. C'est moi qui gère le courant.
Je vous ai bien suivi, l'honorable. Je vous ai très bien suivi. Vous faites un débat de personnes. Parce que lorsque vous dites que je suis dans la posture de défendre mon organisation
et, ça, c'est votre rôle,
et puis défendre l'indéfendable, et moi je dis que non, ça, il n'y a pas de l'indéfendable ici. Tout le monde crie, il faut que le gouvernement ne marche pas sur les textes. Et les textes, la loi donne tout pouvoir au ministre de prendre cette décision lorsque les circonstances ne sont pas bonnes d'interdire les manifestations publiques. Et ça, il a agi dans son rôle du gouvernant. Et la décision qu'il a prise, il a pris par rapport au contexte. C'est lui le gouvernant. Il a des informations. Il ne peut pas prendre des décisions à la volée comme ça. Il a pris ça à base des informations. Il est le patron des renseignements. Et donc, certainement, il a eu des renseignements, il a eu des choses. C'est pour la sécurité.
Le BRDC va...
C'est d'abord
va
même pour la sécurité de M. Beninga. Et aussi, c'est pour la sécurité de ses partisans qui vont aller à ce meeting. Et donc, s'il a eu des informations en amont et que lui, en tant que responsable de la sécurité publique, il prend des décisions pour protéger les gens, moi, je ne vois pas de mal en ça.
Ah, vous protégez les gens ici?
Mais bien sûr, la sécurité est là.
Mais on vous prendra au mot.
Mais oui.
Organiser un meeting, on verra si on va vous refuser l'organisation.
Bon, moi, je dis
on va boucler ce chapitre, je vous en prie. Revenons à notre sujet du jour. Monsieur Kogrengbo, vous représentez les travailleurs du secteur public dans cette émission. Vous alertez sur la situation socio-économique que connaît la population. Vous dites que beaucoup de promesses ont été faites, mais aucune réalisation n'est opérée pour soulager la souffrance de la population.
Je représente ici l'intersyndicale de Centrafrique qui compte en son sein 9 centrales syndicales. Il y a plusieurs plateformes. Vous avez la coordination, vous avez les triomphants, mais nous sommes organisés au sein d'une plateforme qu'on appelle intersyndicale de Centrafrique et Nous comptons en notre sein 9 organisations syndicales. Depuis le 15, nous avons commencé par réfléchir par rapport aux interpellations de nos militants. Vous savez que le rôle d'un syndicat, c'est la défense matérielle et morale de ses militants. Et donc, nos militants commençaient à nous interpeller parce que le ras-le-bol commençait à se sentir. Et nous nous sommes réunis donc le 15, le 19 et finalement le 26 pour signer une déclaration. Donc pour sonner l'alerte d'armes, dire à tous ceux qui veulent nous écouter que la situation devient intenable. Intenable, c'est beaucoup plus par rapport à la pénurie de carburant qui a commencé, je crois, autour du mois de mars. On nous avait dit que c'était passager et que les choses allaient rentrer dans les normes, qui malheureusement, M. Armando, vous le savez comme moi, que la République centrafricaine, en tout cas sur les mythes au niveau de Bangui, parce que sur les 15 stations de service total, aucune station totale ne vend de produits. Ça, c'est au su et au vu de tout le monde. Et puis nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire à nos syndicats que nous avons faim pour que nous réclamons de quoi manger. Et nous avons pris conscience et nous avons fait notre déclaration en toute indépendance et en toute liberté pour dire que la situation devient intenable. Il faudrait que les gouvernants, c'est-à-dire que le pouvoir public puisse se pencher sur cette question. Puisque cette question de pénurie de carburant a entraîné la hausse des prix des denrées alimentaires, les prix des produits de première nécessité, parce que le prix du transport aussi a augmenté. Et donc tout tourne autour de cette affaire-là et nous avons donc attiré l'attention des pouvoirs publics pour dire faites attention, pour ne pas la paix sociale nous coûte trop cher. Il faudrait que nous puissions la préserver. Et donc voilà le but de cette déclaration.
Avant de poursuivre ce débat, une précision à nos auditeurs et à nos internautes sur le débat aujourd'hui. Nous avons plusieurs fois appelé certains ministres directement qui nous ont promis de venir participer au débat, mais au dernier moment, nous ont faussé compagnie. Et aussi, nous avons tenté plusieurs fois de mettre la main sur certains ministres concernés pour qu'ils viennent parler. On a fait le tour des 6 ministres. Malheureusement, on n'a pas reçu un membre du gouvernement autour de cette table pour expliquer ce que le gouvernement est en train de faire aussi pour soulager la population et répondre directement à vous, M. Koglingbo, et surtout à votre plateforme et à votre coordination. Je donne la parole à Madame députée de Bambari 1, Rachel Ngakola, sur cette question. Et la même question, c'est que aujourd'hui, on parle de la hausse de prix des denrées alimentaires qui a pour conséquence sur les paniers des ménagères la cause principale. C'est la pénurie de carburant. Est-ce que vous aussi vous constatez, vous avez certainement écouté vos électeurs, qu'est-ce qu'on peut dire de cela, madame?
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je reviens un peu sur votre invitation. Vous voyez, vous-même vous reconnaissez que vous avez appelé plusieurs ministres concernés, pour les départements concernés par rapport à ce thème. Personne n'a daigné répondre favorablement à votre invitation. Ils ont préféré envoyer un responsable d'une plateforme. Une plateforme, je lis ici, c'est une plateforme qui soutient les actions du gouvernement. Ça, c'est un problème qui concerne le gouvernement. Logiquement, c'est un responsable du gouvernement qui devait être sur le plateau avec nous, le responsable du syndicat, moi, député de la nation, et un responsable du gouvernement pour pouvoir nous donner des réponses appropriées. Qu'à cela ne tienne. C'est dans leurs habitudes. De toute façon, ils n'ont pas d'arguments. Donc, ils ne peuvent pas répondre favorablement à votre invitation.
Car cela ne tient. Puisqu'ils ne sont pas là, on ne sait pas est-ce qu'ils manquent d'arguments ou pas.
Oui. Quelqu'un qui a l'argument ne peut pas fuir.
C'est question aussi de disponibilité.
Question de disponibilité. Je suis désolé, il s'agit de la nation, monsieur. Il s'agit de la nation, même si la personne est indisponible. Il y a le proche collaborateur.
Laissez
vos histoires de période sensible, période de sécurité, laissez ça. Quand ça vous arrange, c'est des peuples. Ça, c'est un problème très grave. Parce que le jour où la rue va commencer à parler, chacun va se chercher. Donc, arrêtons ça. Ça, c'est un problème crucial pour le pays. Quelle disponibilité? Il y a des collaborateurs proches qui peuvent venir. Vous ne serez pas capable de répondre à toutes ces préoccupations.
On ne sait pas. Okay. On prend note.
J'espère qu'ils lui ont donné toutes les informations possibles. Merci. Bon, question de chèreté de la vie. C'est pas seulement avec la pénurie du carburant. Ça a commencé depuis. On a eu à interpeller la ministre du Commerce à 2 reprises à l'Assemblée. On lui a donné des pistes. À chaque fois que les gens viennent, non, on est en train de voir. Non, nous sommes dessus. C'est pour ça que j'ai surnommé ce pays. C'est le pays de on va voir. On est en train. Mais ils n'arrivent jamais. Donc, ce n'est pas seulement la pénurie. Les responsabilités sont plus ou moins partagées. Vous avez la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire avec les taxes, plusieurs taxes, parce que le commerçant, il est obligé de comptabiliser toutes ses charges et mettre sa marge avant de fixer le prix de vente. Donc, vous avez les taxes qui sont énormes. Vous avez les tracasseries avec les barrières illégales sur les routes. Et le commerçant, il décaisse, mais il est obligé de comptabiliser ça dans ses charges. On a plusieurs fois interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale pour attirer leur attention sur les barrières illégales. Vous arrivez sur une barrière, vous avez même la mairie perçoit maintenant. Vous avez les eaux et forêts, la police, l'armée, le désarmement, tous ces services-là.
Phytosanitaire.
Tout ça, le commerçant est obligé de prendre, de comptabiliser ça dans ses charges, dans son coût de revient. Donc, il y a le taux de tracasserie sur les routes. Même les feuilles de manioc dans les pousses-pousses, les gendarmes demandent à ce qu'on paye. On a décrié ce comportement en vain, fatigué. Nous avons l'état de route. Mais l'état de route aussi, ça met les véhicules en difficulté. Quand le véhicule arrive, il y a des pannes, il y a des pièces de rechange, tout ça. Le commerçant est obligé de comptabiliser. Le transporteur augmente aussi son prix de transport. Et le commerçant est obligé de prendre ça en compte. Nous avons maintenant le problème de carburant. On avait interpellé le ministre à l'époque. Il dit, oh, dans une semaine, il y aura... Non, ça va se régler. On a attendu jusqu'ici. Dernièrement, c'est Trades qui a fait venir une barge. Mais alors, pour prendre même ce carburant, c'est tout un problème. C'est tout un problème. On a rationné. Je veux bien. Avant, ils ont toujours rationné, mais on retrouve tous ces carburants au quartier. S'il y a des incendies dans les quartiers, ça veut dire que les gens portent le carburant. On a eu dit, je n'ai pas dit que j'ai vérifié, on a eu dit que le chef du département même importe du carburant et qu'il vend au PK22.
Ah bon?
J'ai eu dit, ah oui, c'est ce que j'ai appris. Mais tu sais, la population parle, hein, quand la population commence à souffrir, là, les langues se délient. Donc, il y a la pénurie du carburant. On demande à ce que les gens aillent avec les véhicules à la station. C'est une bonne chose, mais on vous rationne à 20 litres ou 30 litres. Moi qui veux aller aujourd'hui à Bambari pour voir mes électeurs, comment je vais faire si on me donne 30 litres? Ceux qui ont des moulins à manioc, comment ils vont faire pour ravitailler leurs moulins à manioc? Ceux qui ont des groupes, bon, c'est tout ça qui fait que les prix augmentent. Maintenant, l'État ne fait pas de contrôle.
Si ça vous va, on y revient un à un. On va rester sur les grands points que vous avez. Vous voulez chuter, vous chutez rapidement. Mais les autres points, on y reviendra pour vraiment bien décortiquer.
D'accord. Donc, avec toute cette chèreté, l'État devait mettre en place une politique pour soulager les consommateurs en subventionnant, par exemple, certains produits.
Voilà, ça, c'est
une
piste de solution. On y revient.
D'accord.
On va écouter M. Kounda Goumbi. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la plateforme Mbingazo, hein, une organisation qui soutient les actions du gouvernement dans ce sens. Est-ce que vous aussi vous constatez la hausse des prix des denrées alimentaires ces derniers temps en ce qui concerne même le carburant, ce qui a provoqué c'est la pénurie de carburant, d'hydrocarbures, etc.
Avant que je ne réponde à votre question, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière sur la question de l'agenda des autorités que vous n'avez pas pu mettre la main dessus. Nous traversons une période, comme je dis, qui est un peu exceptionnelle. Il y a la crise mondiale, il y a beaucoup de priorités à vider. Et donc, je ne maîtrise
lesquelles,
pas.
Par exemple,
je maîtrise
par
pas,
exemple
je ne maîtrise pas l'agenda.
Bon, vous ne maîtrisez pas,
autorités.
Ne les défendez pas.
Mais
vous dites que vous n'en
savez
rien.
Je sais une chose, que c'est des autorités et qui ont des priorités à évacuer.
Ah, ça, ce n'est pas une priorité.
Et donc, non, il y a priorité des priorités.
Ça, c'est la priorité
donc,
de priorité.
Si peut-être qu'ils ne sont pas
fils.
Là, c'est peut-être que. Peut-être qu'ils sont
en
voyage.
Ne vous mettez pas dans leur peau.
Non, c'est des autorités qui sont appelées, à des activités, à prendre des décisions dans des circonstances à tout moment. Et donc, moi, je comprends.
Mais c'est une question sociale.
Il faut comprendre simplement
nous,
cela comme ça.
Pour nous, il faut avoir quelqu'un, un membre du gouvernement, pour expliquer
ce que le gouvernement est en train de faire. D'aller désherber, faire l'opération Zendé.
Je pense que ça ne sera pas le dernier débat ici sur ce sujet. Parce que c'est un débat qui fait couler beaucoup donc, de salive, même sur le plan mondial. Ce n'est pas seulement en République centrafricaine que nous vivons
cela. Mais en attendant, nous parlons donc, de la situation centrafricaine d'abord.
Je reviens ici au pays. Moi, j'apprécie l'analyse qu'a fait l'honorable ici tout à l'heure, qui a pris en compte les aspects, les réalités de tout ce que nous vivons ici en République centrafricaine. Nous sommes un État fragile. Nous avons traversé beaucoup d'événements. À répétition. Prenez 2 ans en arrière. la CELICA fait incursion. Maintenant, on finit avec, CPC. CPC a fait incursion. On vient de finir avec le CPC. La pandémie de COVID-19 fait surface. Et maintenant, on finit avec ça. Nous tombons maintenant dans la crise de pénurie de carburant. Et maintenant, encore l'intempérie. Écoutez, avec notre économie, c'est trop de problèmes. C'est trop de problèmes pour la République. Et donc, je pense que les revendications
des travailleurs,
elles sont légitimes. C'est des revendications légitimes. C'est des revendications qui sont normales. Et donc, le gouvernement, il travaille sans relâche. Seulement, vous le savez tous, autant que moi, aujourd'hui, l'opposition a terni tellement l'image du pays à l'extérieur, ça a créé un climat de méfiance, vis-à-vis des partenaires, de ce qui se passe maintenant à l'intérieur de la diaspora est en train de faire. Et ça met les partenaires dans des situations de crise de confiance. Et
donc, puisse parler, par exemple, des taxes, qu'il y a trop de taxes sur les marchandises. C'est sur le plan national, ce n'est pas sur le plan international. Ce sont les autorités qui l'ont fixé, les ont fixées.
Si vous m'avez laissé le temps, je vais...
Je veux qu'on gagne du temps.
Et donc, prenons maintenant le cas de ces prix qui augmentent des denrées alimentaires. C'est vrai, on sait. Moi, personnellement, je sais que le prix augmente, mais le prix du carburant au niveau des stations n'a pas encore augmenté de manière officielle. Ça, si quelqu'un autour de cette table a des documents officiels du gouvernement qui a autorisé la hausse des prix du carburant.
Non, mais est-ce qu'il y a du carburant dans les stations.
On vous parle de produits de première nécessité.
Le problème qui se pose pour les carburants, c'est le problème de stock. Et le problème de stock, les pays de l'OPEP ont diminué leur production. Et ça, on ne produit pas du pétrole chez nous ici. Ça, c'est un problème mondial. Même en France, tout le monde, ils sont dans les queues pour attendre le carburant. Et cela se répercute naturellement sur les prix de denrées alimentaires parce que nous importons presque tout. Parce que à l'extérieur, il y a pénurie de carburant, il y a la spéculation. Il faut aussi tenir compte de ça. Les commerçants spéculent. Ils prennent des arguments pour dire non, parce qu'il y a les tracasseries routières, parce qu'il y a ceci. Non, c'est des arguments pour spéculer sur les prix, purement et simplement.
Vous avez fait la route, vous?
Bien sûr, moi j'ai fait.
Vous n'avez pas vu de barrières?
Il y a des barrières, mais est-ce que les barrières, il y a des gens, ils font leur travail dans le cadre de.
Percevoir l'argent, c'est des fonctionnaires, monsieur. Ils n'ont pas à percevoir de l'argent sur les.
Moi, j'ai fait l'axe, nous là. Moi, je n'ai pas vraiment constaté.
On écoute, monsieur Kogrimbo. Louis-Marie Kogrimbo, coordinateur de l'intersyndicale des travailleurs centrafricains. Vous voulez rebondir, je vois.
Oui, monsieur Armando, je pense que nous sommes là par rapport au prix de carburant et au prix des denrées qui galopent et que le salaire est resté stagnant. Nous avons des preuves de ce que nous disons. On ne dit pas les choses comme ça en l'air. Je vous dis aujourd'hui, le bus urbain est passé de 125 francs CFA à 200 francs. Le taxi est passé de 150 à 250. Les motos, n'en parlons pas. Vous prenez quelqu'un qui habite par exemple PK12 ou PK16, qui doit payer 250 francs. De PK12, le taxi va le déposer au croisement 4M, il va payer croisement 4M pour aller en ville et au retour.
1000 francs.
Cependant, son salaire n'a pas changé. Est-ce que vous pesez les conséquences? Je veux bien ce qu'on est en train de nous dire. Et c'est extrêmement grave et c'est inadmissible ce que nous écoutons ici. Et nous pensons que les travailleurs aviseront le mot venu. Et vous voyez déjà ça? Quand le gouvernement ne réagit pas, ça veut dire qu'ils sont complices de ce qui se fait. Hein? De 125 francs à 200, de 150 à 200. Et aujourd'hui, dites-moi, le prix du carburant à la station qui est de 800, pour le super, de 805 francs, aujourd'hui, c'est entre 1000 francs et 1100 francs sur les trottoirs. Parce que dans les stations, il n'y en a pas. Et le gasoil même, le pétrole lampon, n'en parlons pas, on ne trouve pratiquement pas le pétrole lampon. Le gasoil est passé de 855 francs à 1400. Nous avons les preuves de ce que nous disons. Nous ne disons pas ces choses en l'air. Nous prenons le temps pour faire nos enquêtes et pour arrêter ce que nous sommes en train de faire, M. Armando.
Oui, Oui, madame Rachel.
Oui, oui, merci.
Ngakola.
Même par rapport au carburant, ça c'est le prix à la pompe. Et à la pompe, c'est rationné. Quand je vous disais que si quelqu'un va aller en province, la personne doit se ravitailler au dépôt. Au dépôt, le prix du gazole est à 1450. Ce n'est pas
855
comme à la pompe. Mais à la pompe, vous ne pouvez pas prendre au-delà de 20 litres. Alors, si vous avez un groupe à la maison, ou bien les moulins à manioc, ou vous voulez aller en province, vous voulez voyager, vous êtes obligé d'aller vous ravitailler au dépôt. Et au dépôt, c'est 1450 francs le litre de gasoil.
Au dépôt, chez les vendeurs
Non, chez Tradex.
C'est Tradex.
Au dépôt. C'est 1450 francs, si vous voulez aller au-delà de 20 litres à la pompe. Ok, qu'à cela ne tienne. Bon, vous voyez, ne ramenez pas tout sur l'opposition. On parle de la gouvernance, de la gestion du pays. Quand vous accédez à la magistrature suprême, ne regardez pas en arrière, parce qu'avant d'accéder à la magistrature suprême, vous étiez bien au courant de l'État. Vous avez fait l'état de l'œuvre, vous êtes bel et bien au courant de l'état du pays. Tout se résume à la CPC, tout se résume à la CELECA. Non, avançons, trouvons des solutions. C'est pour ça que le chef de l'État doit s'entourer de tout le monde, tous les fils du pays, selon leurs compétences, pour le guider, pour lui donner des conseils, pour lui donner des orientations, pour lui faire des bons projets de société. Parlons de pénurie de ou bien guerre à l'Ukraine. Ou bien il a dit, même en Europe, il y a des queues. Mais pourquoi vous voulez toujours prendre l'exemple d'ailleurs? Derrière moi, en France, il y a la queue, mais ce n'est pas par rapport à la pénurie. C'était la grève des travailleurs pour demander leur...
Et demander une augmentation de salaire.
Voilà, une augmentation de salaire. Ça n'a rien à voir avec le carburant. Ça n'a rien à voir avec le carburant.
C'est relatif avec l'inflation.
Non. Le carburant y est. Le carburant est là. Mais arrêtons de voir toujours la France. Nous souffrons ici. Ce n'est pas les Français qui souffrent ici. Parlons de notre pays. Avant, on avait dit, non, c'était les crises. Après, c'est Covid. Maintenant, c'est guerre en Ukraine. Demain, ça sera quoi alors? La gestion d'un pays, c'est avec tous les aléas. C'est avec tous les aléas. Il y a des hauts et des bas, il y a des crises. C'est tout ça qu'on appelle la gestion d'un pays. Je crois que même vous souffrez plus que moi qui suis opposant. Vous souffrez plus que moi. Mais pourquoi vous voulez défendre la chèreté de la vie? Ce n'est pas un problème de parti au pouvoir ou parti de l'opposition. Non, c'est un problème qui concerne la population. Regardons l'intérêt de la population. Oui. Donc, arrêtons de dire oui, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, je voulais juste rebondir à ça. Si on peut passer à une autre question, je suis prêt.
Les conséquences de vente de produits inflammables à l'air, dans la rue, ça, vous le savez comme moi. Au PK12, il y a eu incendie, non loin de truc des impôts, où ça fait mouche. À Galabadia, il y a eu incendie avec toutes les conséquences. Vers kilomètre 5, il y a eu incendie. C'est comme si même la lutte contre les fraudes de ce côté-là n'existe plus. Personne ne nous dit rien et rien ne se fait. Et c'est pour cela que nous, on dit comment on fait, on va où? On voit tout ça dans le bureau, c'est comment c'est,
nous sommes en train de poser, de définir, de toucher ou bien d'identifier les causes endogènes, exogènes de cette situation que la République centrafricaine connaît en ce moment. Vous voulez rebondir avant qu'on entende maintenant l'autre chapitre, monsieur Kounda Bombi.
Oui, justement, moi, j'avais dit tout à l'heure que toutes les revendications que la centrale syndicale est en train de formuler, elles sont légitimes.
Merci.
C'est des revendications légitimes. Ça, on n'en disconvient pas. C'est des revendications qui sont fondées seulement. J'en appelle ici au sens du patriotisme. Il y a beaucoup de
priorités. Des travailleurs, c'est ça?
Oui, de la part des travailleurs.
Pourquoi? Comment?
Parce que le gouvernement a déjà fait augmenter le SMIC et le SMAC. Ça, c'est pour le secteur privé. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut déjà attaquer le problème d'augmentation des salaires au secteur public.
On est en train, non? On est en train de voir. On va voir. Nous sommes dessus.
J'avais parlé des contextes que nous traversons aujourd'hui.
Mais les parce contextes, que, là, vont
vous
finir
savez,
quand
il y a dans les priorités, il y a encore des priorités.
Oh.
Et ces priorités, des priorités sont en train d'être mises en œuvre. Aujourd'hui, madame avait soulevé aussi question de route. Ça fait partie des priorités. Des priorités. Si nous voulons résoudre ce problème, il faut nécessairement aussi reconstruire
nous,
nos routes.
Nous entamons un autre chapitre, donc, mais toujours dans le même sillage, avec cette question, en plus des difficultés que vous-même, tout le monde relève ici, hein, les commerçants dénoncent le problème récurrent de tracasserie sur les multiples barrières illégales dans le pays. Cette pratique a quand même daté. Que faut-il faire pour y mettre fin d'une manière définitive, selon vous?
La question des barrières illégales avait été déjà, je pense que, lorsque le ministre, le premier ministre Dondra était encore aux affaires, il avait fait le tour, il a démantelé certaines barrières.
Il a fait des tours où il a été jusqu'à Boussembélé.
Oui, il a pris l'axe de Boali, il a fait son travail, il a fait ce qu'il a eu à faire. Et aujourd'hui, cette question, je pense que
ça n'existe plus.
C'est allégé.
Ah bon?
Et donc, les autres commentaires là-dessus, moi, je pense que nous devons dépasser ce cap-là pour aller parler d'autre chose. Maintenant, en termes de solution, je pense que la solution est en train d'être mise en œuvre. Les routes sont en train d'être construites au niveau de la capitale. Et très bientôt, après l'intempérie, après que la pluie cesse, vous avez suivi le ministre des Travaux publics, il a dit l'axe Bambari-Sibut est pris en compte dans le budget actuel. Et donc,
ah non, c'est pas dans le budget. Désolé.
Et donc, on est en train d'y aller à petits pas, mais très sûrement. Vous voyez? Donc, les choses se font. Pression, ce qui est là.
J'encadre le débat. Je parle tout à l'heure de la tracasserie.
Les problèmes
sur les
sont en train d'être résolus.
D'abord, sur les barrières, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Louis-Marie Kogrembo?
Monsieur Amondo, je rigole un tout petit peu. Je ne sais pas si mon co-débatteur Baron pouvait valablement représenter sa plateforme comme il le dit, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème, M. Baron. Ça, je vous le dis, vous n'êtes pas mon égal par rapport à ce
qui se passe. On ne fait pas de débat de personnes ici. Nous
non, je le dis parce que vous êtes en train
quelque
de...
Chose. Ça, c'est
avec
des
beaucoup
débats
de respect
des
pour nos auditeurs. Moi,
je respecte votre personne. Donc, je pense que nous devons rester dans le cadre du débat, dans le cadre du sujet.
Oui,
on s'attaque à la personne.
Parler de tracasserie routière.
On voit le monsieur parler d'égalité sur la question.
Je ne fais que relever quelque chose.
Ce que vous avez vu, oui, allez-y.
Monsieur Amando, je crois que cette histoire perdure dans la mesure où les autorités crient avec, mais il n'y a pas de changement. Nous sommes des ouvriers. Moi qui vous parle, je suis travailleur, je suis ouvrier. Vos beaux discours, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons du concret. Nous voulons joindre la parole, ça dit que la parole à l'acte.
Mais l'acte à la parole.
L'acte à la parole. Le Premier ministre Ndondra aurait beau faire tout le pays, et il est allé jusqu'à Amdafok, et puis à Ndifa, il est allé à Gordil, après il est allé jusqu'à Nyonti. Ça nous intéresse nullement, nous les travailleurs. Après tous les tours qu'il a fait, qu'est-ce qui a été constaté? Rien n'a changé.
Je rappelle qu'il a été seulement à Boussembélé. Il n'a pas eu l'occasion d'aller dans d'autres axes, ni dans tout le pays de la République d'Afrique, dans tout le pays, ni dans toutes les villes de Centrafrique, pour constater ces faits, parce qu'il n'a pas eu le temps.
Mais ils ne pourront jamais. Ils ne pourront jamais le faire parce que il faut que ce soit les autres qui souffrent et ils ne veulent pas souffrir.
Non, c'est le problème. C'est pas question de ça. Oui. Le Premier ministre a beaucoup de priorités. Il dirige un gouvernement. Est-ce qu'il va tout le temps se concentrer sur un seul point?
Qu'est-ce qu'il faut faire, madame?
Oui, merci, monsieur. Non, merci, monsieur Armando, qu'on arrête de se moquer de la population. Baron, passant à dire, ils ont des préoccupations, ils sont très occupés, mais ils sont ministres du pays. C'est avec toutes ces responsabilités-là, je suis désolée. Quand M. Kogrembo avait dit « c'est pas mon égard, c'est pas la personne physique que vous représentez », non. Moi, par exemple, j'ai pas voulu venir parce que je me disais « je suis venue plus pour l'intersyndicale ». Parce que j'aurais voulu avoir un membre du gouvernement, moi en tant que député de la nation, comme ça je devais lui poser certaines questions et il sera en mesure de me répondre parce qu'il est de son devoir. Il est de son devoir, je suis désolée. Concernant le départ,
La tracasserie.
Non, pas la tracasserie, la balade qu'a eu à faire M. Dondra. Ça, c'est une petite balade. Il est allé en week-end. Arrêtez de tromper le peuple. Arrêtez de tromper le peuple. Vous voyez, vous allez un jour aller droit dans le mur avec cette tricherie. Vous aimez trop tricher. Vous croyez qu'un premier ministre, il prend l'axe goudronné. Il prend l'axe goudronné avec sirène, avec sécurité, tout ça là-dessus. Vous croyez que quelqu'un peut venir mettre une barrière? Non. une bonne vérification, il n'a qu'à prendre la route dans un véhicule déguisé, même le woro-woro ou les transports en commun, comme un individu lambda, un citoyen lambda. C'est en ce moment qu'il peut constater. Il peut constater, il prend ici, il ne fût que même jusqu'à Bambari, jusqu'à Lindao, il revient, il nous donne l'état des lieux, il nous décrit la situation. Mais quelqu'un qui est dans ces 4x4 fumés, avec toute la sécurité, les Russes, les Rwandais, les FACA et autres, vous croyez qu'arriver au niveau d'une barrière, quelqu'un peut l'arrêter? Non, arrêtons, il est parti se promener, il est venu faire son cinéma. Il est venu faire son petit cinéma, c'est pas ça. Arrêtez de tromper la population.
Revenons tout à l'heure à ma question.
Donc maintenant, par rapport à la route, comme il a dit, justement, il faut construire les routes. Il a dit qu'on est en train de faire les routes à Bangui. Non, nous vivons tous ici. Tout ça, c'est justement, c'est une mauvaise pratique. Quand l'ONEM veut commencer des travaux, prenez un axe. Vous faites en peu de temps, vous libérez cet axe, puisqu'il n'y a pas de route à Bangui. Vous mettez les déviations partout. Il n'y a pas de carburant. Pour faire 200 mètres, vous êtes obligé de contourner, faire 2 km pour revenir à votre objectif. Non, on ne travaille pas comme ça. Ça, c'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Et puis, quel genre de route vous faites ici? Quand vous coulez, je ne sais pas trop quoi sur la route là. Mais c'est pour combien de temps? Je vais vous prendre l'axe de Bambari. En 2018, quand les gens commençaient à préparer la Jima, vous attendez les fêtes ou l'arrivée d'un président de la République ou l'arrivée pour commencer à bricoler. Parce que moi, j'appelle ça, c'est du bricolage. Ils ont fait la route de Bambari. Axe Sibut-Grimari, ils ont donné à un autre entrepreneur, 3CG. Ce n'est pas dans son domaine. Lui, c'est un commerçant, import-export ou bien transport et autres. Car cela ne tient. Je ne connais pas leur relation. Ils lui ont donné ce marché. Ils ont donné le marché de Grimari, Bambari, BTP, la semence. J'ai fait l'axe plusieurs fois. Je suis allé voir 3CG, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Une mauvaise qualité de terre qu'ils sont en train de mettre sur la route. À peine ils étaient même en train de travailler la route, qu'il y avait déjà des casses et autres. Je suis allé le voir, j'ai dit non. Et par contre, l'axe Grimari, 80 km Grimari, Bambari, la semence avait très bien fait la route. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus pratiquer cette route-là. Vous ne pouvez plus pratiquer. Non, décentralisons les choses. À l'époque, il y avait des directions régionales, des TP. On leur donne les engins, ils font les travaux. À l'époque même, les ingénieurs TP, ils faisaient leur contrôle. Quand ça ne répond pas, on dénonce. Mais aujourd'hui, avec l'histoire des pourcentages, avant que vous ne commenciez les travaux, le pourcentage, vous empochez déjà les 15-20% et vous donnez satisfaction, vous validez et on réceptionne.
Vous avez plus de minutes sur M. Koundagbombi.
Oui, mais parce qu'il n'a rien à dire sur ça.
Je
récupère 5 minutes.
Je vous en prie. À la lue, où vont les choses? Que craignez-vous en tant que défenseur des travailleurs centrafricains?
Nous sommes en face d'un gouvernement responsable qui certainement nous appellera autour de la table et on va trouver une solution dans la négociation et dans la concertation. C'est l'unique arme que nous, syndicats, nous avons. C'est dans le dialogue, dans la négociation et dans la concertation que nous pouvons trouver la solution à nos revendications. Mais la loi aussi nous donne une autre possibilité. Dans le cas où nous nous voyons face à un mur, nous pouvons utiliser d'autres stratégies. Nous ne sommes pas encore là aujourd'hui. Nous attirons l'attention de nos gouvernants pour leur dire, Yann, ça ne va pas. La grogne est en train de monter. Faites quelque chose pour les travailleurs. Abrégez la souffrance des travailleurs. Et quand je dis travailleurs, je pense à l'éleveur. Quand je dis travailleurs, je pense à l'agriculteur. Quand je dis travailleurs, je pense au boubanguer de kilomètre 5, celui qui fait à pied toute la journée pour trouver à manger. Mais dites-moi aujourd'hui, est-ce que c'est possible de manger un kilo de viande pour celui qui est Boubanguéré? Voilà toute la question que nous posons. On est venu, c'est pour donner à manger au peuple. On ne nourrit pas le peuple par la politique. Ça, Bogandala dit, et nous réitérons cela. Nous, travailleurs, nous avons besoin de pain et de l'eau pour résister, pour faire le travail. L'homme est au centre de toute l'économie. Il faudrait qu'on tienne compte de l'homme. Il faut qu'on entretienne l'homme. Voilà notre... C'est plus simple. On n'a même pas besoin d'avoir son CP pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Oh.
Monsieur Koundagbombi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour répondre d'une manière rapide, atténuer la colère des travailleurs en ce qui concerne la hausse des prix des aliments alimentaires, la pénurie des carburants, etc. dans le pays?
C'est ce que j'étais en train de dire. Cette question de hausse des prix, on ne peut pas la traiter sur un seul angle. Il faut la traiter sur plusieurs angles. Et les angles auxquels on va prendre pour traiter pour résoudre ce problème sont nombreux. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire des efforts sur tous les plans. Je vous ai cité, par exemple, la construction de routes que l'honorable avait soulevé tout à l'heure, que ça fait partie des aspects qu'il faut y pencher là-dessus, parce que les gens disent il n'y a pas de route, et ça aussi, ça joue sur le panier de la ménagère. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement a jugé mieux de prendre comme priorité la ville de Bangui. Et je vous ai dit tout à l'heure que le ministre lui-même, il a dit que très bientôt, ils vont aller dans les arrière-pays parce que le monde entier même connaît l'intempérie. Nous sommes dans le changement climatique.
Mais est-ce que vous ne voyez pas dans les propositions de ce que le gouvernement veut faire, surtout le manque de contrôle des prix sur les marchés, vous ne pensez pas que ça aussi peut provoquer
le ministère du Commerce, c'est un ministère aussi qui gère ces genres de choses au quotidien. Les agents du ministère du Commerce, leur travail, ils le font au quotidien. Mais vous savez, les commerçants aussi, il faut le dire, les commerçants, des fois, ne sont pas honnêtes parce qu'ils spéculent pour une petite situation.
Mais il faut contrôler.
Ils spéculent.
Il faut contrôler, vous le savez très bien.
Mais le travail se fait. Le travail se fait au quotidien. Mais sur les marchés, allez-y sur les marchés. Les inspecteurs, il y a des gens qui travaillent.
Vous les avez vus.
Sur les marchés, les gens travaillent. Mais les spéculations, c'est même pas, d'ailleurs, ce n'est même pas tous les produits de données qui sont en hausse. Il y en a qui gâtent encore le prix.
Lesquels?
Mais il y en a qui, beaucoup plus les produits importés, c'est beaucoup plus les produits importés qui sont les prix. Les commerçants
ont spéculé. Vous avez parlé des produits de première nécessité,
oui, les produits de première nécessité, que les commerçants ont spéculé sur les prix. Et donc, le travail de régulation des prix se fait au quotidien.
Monsieur Kogrengo, vous voulez répondre quelques secondes?
Oui.
Par le ministère du Commerce.
Oui. Quand j'écoute Baron, bon, ce n'est que normal ce qu'il dit. Mais je continue à le dire, le travailleur centrafricain a beaucoup souffert. Il faut abréger la souffrance du travailleur centrafricain, celui qui produit la richesse. La richesse, elle est produite par les travailleurs. Monsieur Armando, ne nous amenez pas à dire du n'importe quoi, monsieur Baron. Est-ce que vous savez que les émoluments, les indemnités, les salaires au niveau de la présidence a triplé, comme au niveau de la primature, comme au niveau des institutions de la République, et que le salaire, le travailleur centrafricain, son salaire est resté plus de 20 ans en arrière, stagnant. Je ne sais pas si vous le savez. Mais nous, s'il y a quelqu'un qui aime ce pays, c'est bien le syndicat. Parce que nous avons dit, donnons la chance au gouvernement de produire des richesses et puis de répartir cette richesse-là. Nous sommes patients. Nous le savons. Nous ne voulons pas, en plus des problèmes d'ordre sécurité que le gouvernement a, créer des désordres au niveau social. Ça, nous sommes conscients. Mais plus on avance, on se rend compte que rien ne se dit et rien ne se fait. À partir de ce moment, comment on fait? On vous pose la question, on rend la question, on pose cette question à ceux qui nous gouvernent. Comment on fait dans ce cas-là? Dites-nous, donnez-nous une réponse. Assoyons-nous et dites-nous ce qu'il y a de faire. C'est vrai que nous avons un cadre de concertation dans lequel tout se traite. Mais nous le disons, même dans ce cadre de concertation, le président du cadre de concertation, c'est bien le ministre en charge de la fonction publique, M. Marcel Dimassé, qui convoque régulièrement cette rencontre-là. Et nous pensons que lorsque nous traitons de ces choses-là, on remonte les informations au niveau du gouvernement pour que le gouvernement trouve une solution. Comme je l'ai dit ici, nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers, nous voulons du concret.
Voilà, vous l'avez déjà dit, Madame Rajengakola, sur cette question, vous voulez rebondir?
Moi, je ne vois pas seulement la souffrance des travailleurs. Je vois la souffrance du peuple centrafricain, de tout le monde. Même, je crois que mon fils, est-ce qu'il est déjà intégré?
Je suis travailleur aussi.
Ah, vous êtes intégré? Ou bien vous êtes encore stagiaire?
Il est en train de défendre ma cause ici, donc je suis travailleur.
Donc, vous voyez, moi, je ne défends pas seulement les travailleurs. Je défends tout le monde. Parce qu'il s'agit de la population. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas que les travailleurs qui souffrent, c'est tout le monde. Quand il n'y a pas d'eau, c'est tout le monde qui souffre. Quand il n'y a pas les soins. dans les hôpitaux, c'est tout le monde. Le niveau scolaire, c'est tout le monde.
Et quand il n'y a pas de salaire aussi, c'est tout le monde.
C'est tout le monde.
Très bien.
Voilà. Quand il n'y a pas de salaire, c'est bon. C'est tout le monde, plus ou moins. Donc, vous voyez, comme a dit M. Kogrengbo, il faut s'asseoir et discuter. Mais il ne faut pas discuter pour tirer pour avoir une conclusion, de dire on est dessus, on est en train de voir. Ils ne verront jamais. Ça, là, c'est un disque qui est complètement rayé. Ce disque est rayé. C'est du concret qu'on veut. Comme il a dit ici que le ministère du Commerce fait les contrôles, c'est faux. Ils ont une commission d'homologation de prix qui ne se réunit même pas. Moi, je vous dis en connaissance de cause, on a interpellé la ministre du Commerce, qu'ils sont en train d'eux. C'est toujours en train d'eux. Donc, il y a une homologation de prix. Les gens doivent faire leur contrôle de manière régulière. Quand on attrape, on inflige une amende à la personne. Bon, bref. Donc, comme il a dit même l'état des routes, tout à l'heure, il a dit que c'est l'opposition qui demande à la communauté internationale de ne pas financer X, Y, Z. Mais vous êtes souverain, oui ou non? Vous êtes un pays souverain. Donc, financez vos choses. Les routes ne peuvent pas se... Non, vous faites quoi? Vous faites quoi? Alors que les travailleurs se plaignent.
Par qui? C'est le gouvernement.
Non, vous savez, en matière de route, vous n'êtes pas technicien. Faire une route jusqu'à Bangassou Obo, on ne peut pas faire sur financement propre. C'est impossible. C'est impossible. Il faut voir les grandes banques de développement et autres. Ce n'est pas sur financement propre. Vous avez un budget de 200 milliards. Vous allez financer quoi sur 200 milliards? Non, arrêtons. Arrêtons ça là. Non, arrêtons ça. Vous
êtes pays. Les travaux en cours.
Vous êtes pays souverain.
Je parle des travaux en cours.
Apprenez aussi à améliorer votre politique en matière de diplomatie, en matière de bonne collaboration avec les pays voisins. Un coup, vous êtes souverain. Un coup, c'est l'opposition qui a demandé aux gens de vous bloquer financièrement. Non, personne ne peut vous bloquer financièrement. C'est votre comportement, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion.
De dénigrement.
Parce que le problème est que quand vous achetez les grands 4x4, là, les grands 4x4, quand vous roulez sur quelle route? Regardez même tout autour de la mairie. Je prends juste cet exemple-là. La mairie. La mairie de Bangui, entre poste, eau et forêt, banque... Il y a toujours des cérémonies là-bas de mariage. Les gens pêchaient. Regardez les trous qui sont là. C'est-à-dire même le savoir-vivre, le savoir-être, le bien-être là. Ça commence dans sa propre maison. Ne fût-ce que ça, bricoler même. Ça, on ne... Non, vous commencez à banguer, c'est l'opposition qui dénigre. Le dénigrement, ça fait quoi? Quand vous dénigrez, là, vous croyez que ça nous fait quelque chose? Ça nous fait non, ni
Madame,
chaud, ni froid.
Madame Rachel Ngakola...
Excusez-moi, juste deux minutes.
Deux minutes, c'est beaucoup. Je vous donne 30 secondes.
30 secondes.
je gère le temps.
Je suis parlementaire, je suis payé pour parler. Oui. Ouais. Donc, vous voyez, non, laissez ça. Laissez ça, vous êtes souverain. Arrêtez de dire tout le temps, vous êtes souverain.
Ça, vous l'avez déjà dit. Oui. Là, vous l'avez déjà dit. Quelques secondes. Monsieur Koundagoumbi.
Oui, je voulais vraiment revenir sur l'intervention de notre défenseur, de nous, les travailleurs, parce que tout le monde travaille. J'avais dit tout à l'heure que c'était des revendications légitimes. Aujourd'hui, là, les discussions que vous menez avec le gouvernement, je pense qu'il y a quand même un pas qui est déjà franchi. Au niveau du secteur privé, on a déjà augmenté le SMIC et le SMAG. Maintenant, presque tous les départements sont en train de demander les statuts particuliers. Et ça, vous le savez très bien. Le gouvernement est en train de faire en sorte que, au lieu qu'on donne à chaque département un statut particulier, il faut traiter ça de manière globale.
Oui, oui, ça, 30 secondes, ça, les 30 secondes sont épuisées. Oui.
Mais le statut même le statut général, madame, il y a des primes, il faut prévoir des primes, augmenter le salaire.
Madame, revendique aujourd'hui,
ça n'empêche pas.
Madame Dacola, pour gagner du temps, je vous retire la parole. Vous avez 30 secondes, monsieur Kogrengbo, vous voulez rebondir?
Oui, je crois que pour nous, nous avons déjà lancé le dé et nous devons jouer ces dés-là. Et je crois, bon, je le dis comme ça parce que le ministre en charge de la fonction publique m'avait déjà soufflé à l'oreille que d'ici la semaine, nous allons nous retrouver autour de la table. Certainement, et qu'il y aura une solution à ce que nous sommes en train de pouvoir revendiquer. Comme je l'ai dit, il faut abréger la souffrance des travailleurs.
Merci et c'est la fin de ce débat politique du premier média centrafricain. Je rappelle que nous avons parlé de la flambée de prix des denrées alimentaires provoquée par la pénurie de carburant. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres durant cette discussion démocratique. Passez un bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.